I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 101 du Guillotine Podcast. Ça me fait toujours bizarre d'avoir passé la barre des 100, mais merci encore. Aujourd'hui, on va parler de UFC Singapour. Alors, carte évidemment placée sous le signe de l'émotion hein, pour tous les fans de MMA, pour ceux qui suivent le MMA depuis plusieurs années. C'est un moment assez particulier grâce à ce main event entre Max et The Korean Zombie, mais aussi d'autres combats importants sur cette carte. Prélim assez impressionnant hein, avec beaucoup de chaos, etc. Prélim de feu, prélim que je n'ai malheureusement pas regardé sauf un combat qui m'intéressait quand même particulièrement, c'est le combat entre les heavyweights Waldo Cortés Acosta, le Dominicain, face à Lucas Breski, le Polonais. Et si ça m'intéresse, c'est tout simplement parce qu'on a besoin de 109 chez les heavyweights. Et ce 109, je pense que, eh bien justement, le Dominicain Waldo Cortés Acosta, a.k.a. Salsa Boy, puisse en amener un petit peu. Parce que lui vient des Contender Series, bah, tout comme son adversaire, Luca Breski. Il était à 2-1 avant de rentrer dans la cage face au Polonais. Et il a gagné avec brio face au Polonais. Par contre, c'est chaud pour Lucas Breski qui était sur un no contest au final, puisque ça a été overturn, pendant les Contender Series et qui a perdu ses 3 premiers combats au UFC. Alors, vous connaissez un petit peu la règle, hein, ou plutôt la malédiction des 3 défaites de suite au UFC, c'est que ben, ça peut se couper derrière, hein, coupe. Si jamais vous tapez 3 défaites de suite et que vous êtes un peu un random surtout, et encore plus dans votre début de carrière au UFC, quoi. C'est assez catastrophique, j'ai envie de dire. Mais malgré tout, il faut retenir le positif, c'est une performance ben, plutôt pas mal du Dominicain Waldo Cortés Acosta. Il prenait beaucoup de leg kick hein, pendant les 30 premières secondes, premières minutes face au Polonais. Donc du coup, il a dû répondre assez rapidement avec des jabs et des 1-2, des 1-2 en ligne. Ça a bien marché, hein, vraiment clairement, ça a connecté. La main arrière faisait vraiment peur à Lucas puisqu'elle arrivait très très vite, était très très fort. Même quand ça arrivait dans la garde, ça faisait énormément de bruit, c'était assez apeurant le bruit. Même quand on entendait ça à la télé, que ce soit en direct ou que ce soit en over-end, hein, ça paraît très dangereux. On sentait le power et clairement, Lucas respectait ce power. Direct, il avance et commence à changer un petit peu les niveaux. Waldo, ça se passe plutôt bien, pas mal pour lui. Et ça va assez vite, hein, je trouve, au niveau des mains pour un heavyweight. Et les déplacements sont pas si pires quand même. Lucas envoie un kick que Waldo catch et directement catch and kick, hein, pas catch and kick, pardon, catch and punch. Ça a bien marché aussi, ça a fait mal. Lucas a failli se faire drop sur la deuxième tentative d'ailleurs, hein, parce que même si Waldo continue à avancer avec des 1-2 et clairement à manger doucement mais sûrement son adversaire, encore une fois, Lucas balance ce kick, Waldo l'attrape et lui rebalance un coup au corps. Je pense que ça a fait mal. Et les déplacements sont assez vifs, comme je vous le dis, ça va bien vers l'avant, les strikes vers l'avant font peur à Lucas. Waldo continue de pousser et connecte plusieurs fois Lucas, et alors là, c'est clair que le dernier coup qu'il lui a asséné, avant de le limite lui mettre un coup derrière la tête, mais c'est pas de sa faute, hein, c'est parce que Lucas s'est retourné. Lucas était quasiment KO, limite debout, KO. Il a continué à titubé, on va dire, et puis il aura suffi d'un punch à moitié connecté, un peu limite derrière la tête. Mais bon, comme je vous le dis, Lucas s'est retourné à ce moment-là, donc c'est pas de la faute du Dominicain, vraiment pas. Il s'est retrouvé vraiment à tomber directement, pleine poire, mais limite un face plant sur la nuque, hein, quasiment. Quand on voit les photos, c'est assez épeurant. Je pense que les gens ont eu peur sur place pour lui, parce que c'était assez épeurant. Malgré tout, ça s'est bien passé pour lui. Plus de pleurs que de mal pour le Polonais, mais comme je vous le dis, 3 défaites d'affilée, clairement, c'est sale. Vraiment pas idéal comme début dans l'UFC pour Lucas. Waldo, mais je trouve qu'il y a peut-être de quoi à faire au final, parce que le gars se débrouille pas mal dans ses déplacements, ses strikes font peur. Bon, après, c'était un round plutôt, pardon. Donc on devrait en voir un peu plus, et puis il a déjà perdu un combat, mais là il en est à 3-1 maintenant après les Contender Series, c'est pas si mal pour les heavyweight. Salsa Boy Waldo Cortés Acosta, bravo à lui encore, belle perf. Enfin, qu'on termine les prélims avec un combat de heavyweight et on commence la main card avec un combat de heavyweight entre le très très connu, hein, fan favorite Parker Porter face à Junior Tafford, hein, lui qui vient du K1 et du Glory et qui a aussi combattu dans d'autres organisations, au Brave notamment et au Rising. Pas mal, hein, voilà, il s'est combattu en boxing, il s'est combattu en Muay Thai, il s'est combattu en kickboxing. Il a un peu tout fait, hein, c'est un peu un baroudeur de la bagarre, j'ai un peu envie de dire, parce que bon, son record en kickboxing n'est pas ce qu'il y a de plus fou. Bon, après, Glory, c'est quand même assez compétitif, hein, quand même, comme organisation en kickboxing. Mais en MMA, ça peut passer, hein, on le sait très bien. On l'a vu aussi bien dans l'UFC que dans les Contender Series, que dans d'autres organisations comme au Bellator, etc. Il y a beaucoup de kickboxers qui font le pas. Ils n'ont pas besoin non plus d'être des Rico Verhoeven ou alors des Badr Hari pour pouvoir faire le saut en MMA. Tu peux avoir un record un peu en dents de scie et puis ça passe apparemment. C'est un peu le cas avec Junior Tafa. Et puis bon, il y a aussi cette aura, hein, des frères Tafa, de la famille Tafa. C'était son deuxième combat au UFC. Il a perdu le premier combat qui était assez chiant, assez emmerdant face à Mohamed Ousmane. Je me suis vraiment fait chier en regardant ce combat. Mais bon, c'était sûr que tu mets un kickboxer contre un lutteur, ça donne pas forcément le meilleur, hein, surtout quand c'est pas non plus les meilleurs de la catégorie. Mais là, face à Parker Porter, qui est, je vous le rappelle, ceinture noire de Jiu-Jitsu, put some respect on his name. Il a battu le grand Alan Bodo aussi. Combat fun, hein. Je sais, je fais des blagues, etc. Mais on est là pour rigoler, on est chez les V-Weight à la fin, on a le droit. Je pense qu'on peut se donner le droit. Parker Porter s'est fait allumer dès la première minute. On voyait que dans le clinch, Justin Tafa était très dangereux. Il a réussi à lui placer un genou plein de poire et puis directement Parker Porter titube. Et là, il est obligé de survivre. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es bon ou alors quand tu as les minimums requis pour survivre en MMA, les bases, les mouvements débutants, les réflexes de survie? Bah, tu vas à la lutte. Il a poussé son adversaire, Junior Tafa, contre la grille. Il a essayé d'aller chercher un single leg. Et puis, j'ai un peu l'impression que ce single leg, s'il passait ou pas, c'était ce qui allait dicter le combat. Au final, et de nous donner le résultat final. Et il n'a pas réussi à finir ce takedown. Pire encore, il s'est fait retourner contre la cage face à Justin Tafa, qui au final, a cassé la lutte contre la grille, hein, puisque c'est un kickboxer. On est revenu au centre et Parker Porter a voulu retourner un peu dans le clinch, me semble-t-il, mais Junior Tafa est parti en dirty boxing, hein. Il a réussi à placer deux uppercuts alors que les deux étaient en clinch. C'était vraiment bien placé. Alors là, Parker Porter était dans les étoiles, encore debout certes, mais les mains en avant, vraiment en mode survie, vraiment survie de bagarre de rue. Et il s'est mangé une dernière droite explosive de la part de Junior Tafa, qui a envoyé Parker Porter au sol. Walkout KO pour Junior Tafa. KO au bout de 90 secondes, voilà. On a aimé parce que c'est un bon opening pour la main card. C'est les heavyweight, ça tape fort, un gros KO. Voilà, on peut pas demander mieux. On passe donc au combat le plus important de la soirée pour moi. C'était Erin Blanchfield face à Tayla Santos. La numéro 3 face à la numéro 4. On est donc clairement dans la finale pour le title shot chez les flyweight. Enfin, du moins, c'est ce que je penserais. Après, c'est sûr que, figurez-vous que dans une semaine, le 2 septembre à Paris, il y a Manon Fiorro face à Rose Namajunas. Puis on a aussi Grasso face à Chevchenko qui s'en vient bientôt. Ça fait beaucoup, hein, pour les flyweight chez les filles. Et ça fait énormément de bien parce que c'est une catégorie qui, depuis plusieurs années, est devenue nettement plus agréable, nettement mieux à suivre, plus intense, plus compétitive. J'ai que des bonnes choses à dire sur les flyweight ces récentes années. Et puis Erin Blanchfield, quoi. Franchement, venue de nulle part, vraiment jeune, de chez Renzo Gracie, New York City. Et puis Tayla Santos qui a failli gagner, hein, face à Shevchenko. Vraiment, elle avait montré de très belles choses. Donc on pouvait s'attendre à un super combat. Et on avait beaucoup de questions aussi par rapport à ce combat. Et les questions ont été répondues. Premier round, grosse bagarre en stand-up. Et là, c'était la question, est-ce que Blanchfield va pouvoir passer l'orage? On a eu beaucoup d'échanges, je trouve que Santos gérait mieux justement ces échanges. Le volume était clairement des deux côtés, hein, mais Santos était plus à l'aise dans le striking. que ce soit au niveau des kicks, ou au niveau des combinaisons en anglaise, ou au niveau des combinaisons en pied-point. Les low kicks étaient bien plus piquants du côté Santos, donc clairement ça pouvait faire mal côté Erin Blanchfield. Je trouve que Santos time mieux et choisit mieux les coups qu'elle envoie. Notamment, sur un exemple parfait, c'est Erin Blanchfield qui avance en ligne vers Tayla Santos. Tayla Santos qui envoie un beau inside leg kick et Erin Blanchfield trébuche. Donc ça, c'était par exemple un petit exemple qui montrait que ben, Erin Blanchfield était un peu dans la mouise, hein, clairement dans ce premier round. Blanchfield rush toujours sur son adversaire. Son visage commence à être marqué, un peu de sang qui coule. Elle rush toujours sur son adversaire avec des 1-2, mais Santos connecte mieux et fait mal avec les counters aussi. Donc quand vous dominez dans les échanges de base, soit pas forcément des counters, plus sur les counters, ça commence à être tendu, ça doit créer du dégât et ça peut faire mal sur le long terme. Blanchfield déclenche à ce moment-là son plus 10 en fight IQ et feinte low pour un takedown, hein, parce que Blanchfield, son arme, c'est les takedowns et le ground and pound et les soumissions. Hein. Elle en a fait 3 de suite sur ses 3 derniers combats, donc c'est clairement son bread and butter. Et là, vraiment, elle avait besoin de sortir son lapin du chapeau. J'exagère un peu, mais c'est clairement une ruse. Il a fallu qu'elle change quelque chose sur sa game. Et là, j'ai vu vraiment le côté intelligent et surdoué de l'américaine que j'aime beaucoup. Je l'ai vu sur ce, justement, shooter low pour monter en haut avec des strikes et pousser dans le clinch contre la grille. Les genoux de Blanchfield commencent à être pas mal aussi, mais même contre la grille, Tayla Santos passe des beaux coudes. Vraiment danger pour Erin Blanchfield, pardon. Quand on se décolle de la cage, en plus, Blanchfield recommence à partir vers Santos qui time un knee parfaitement au corps. Alors, si elle commence aussi à travailler le corps, ça va être compliqué pour Blanchfield. Et attention aux approches de l'américaine dans la poche, hein, parce qu'elle se fait trop connecter. Blanchfield perd le premier round, mais Blanchfield est toujours debout et avance toujours. Clairement. Donc, elle est tough, déjà. Ça, c'est la première chose à noter. Elle peut perdre des échanges, mais adapter son game plan sur des détails. Mais clairement, dans le restant du combat, elle va changer son game plan, pas seulement sur un détail, mais vraiment sur tout le gameplay au complet. Blanchfield essaie de les takedown, mais Santos tame bien les counters et agresse avec des combis dernières dès le début du deuxième round. On voit que Santos, elle continue de jouer sa game et elle a raison parce qu'elle gagne dans cette game. Erin pousse contre la grille et commence à connecter ses deux mains ensemble pour essayer d'aller chercher le takedown. Hein. C'est vraiment la façon la plus simple de faire tomber ton adversaire quand tu es contre la grille, c'est connecter deux mains et ton adversaire, sa façon de défendre, c'est... Fais en sorte que ton adversaire ne peut pas connecter ses deux mains. Par contre, Erin va la garder contre la grille vraiment pour un bout. Santos parvient à obtenir par je ne sais quel miracle un double under. Hein, donc, elle va chercher le double underhook. Mais elle commet une grave faute professionnelle. Et si je dis que c'est grave, c'est parce qu'on est dans le top 5 des flyweight. Pardon. On est dans les meilleurs du monde chez les femmes en MMA. Et... tu vas essayer ce fucking takedown vraiment foireux où tu es, genre vraiment, tu vas essayer de projeter ton adversaire au-dessus de toi, pardon, mais depuis ton dos. Donc, c'est vraiment risqué, je veux dire, de partir vers en arrière et puis de faire flipper ton adversaire. Certes, en lutte, ça peut très bien marcher, mais face à Erin Blanchfield, c'est dangereux. Et si tu te foires et que tu te retrouves sur le dos, même dans la full guard, hein, avec Erin Blanchfield au-dessus de toi, ben c'est vraiment dangereux et c'est vraiment une grave faute. Et c'est ce qui s'est passé, hein. C'était clairement du pain béni pour Blanchfield par la suite, qui s'est retrouvé désormais au-dessus de Tayla Santos qui est sur son dos. Mais malgré tout, Tayla Santos arrive à se relever dans la dernière minute. Je trouve ça incroyable, hein, parce que la pression de Blanchfield quand vous êtes au sol, et puis sa game de vous piner au sol, parce qu'elle vous pine pas seulement au sol, hein. C'est pas une lutteuse, c'est une artiste du sol, c'est plus aller chercher les finitions. Donc elle est capable d'aller finir, donc c'est vraiment dangereux, il faut essayer de se relever, il ne faut pas rester dans cette merde, et c'est ce que Tayla Santos a fait, mais évidemment Erin Blanchfield la gardera contre la grille. Deuxième round pour Blanchfield, et sur le troisième round, on continue un peu dans la même vision, à savoir Blanchfield qui continue de dicter sa game, aller chercher son adversaire contre la grille, la pousser contre la grille, essayer de connecter ses deux mains, essayer de la mettre au sol et ne pas la laisser striker, même s'il y a encore quelques échanges et puis on voit encore Blanchfield qui essaye d'avancer. C'est très bien aussi parce que Des fois, la meilleure des défenses, c'est l'attaque, hein. Certes, tu peux te faire connecter, mais à un moment donné, tu peux pas te laisser comme en pied-point. Quand tu es dans les cordes, tu te prends 1, 2, 3, voire 4 coups maximum. Il faut absolument répondre avec un coup, hein. Pas forcément se déplacer sur le côté de tourner ton adversaire. C'est... Envoie quelque chose, un jab, un push kick, je sais pas, quelque chose, mais il faut pas se laisser faire. Blanchfield, elle, a toujours voulu rusher sur son adversaire et ça lui a donné l'occasion de la pousser contre la grille, de la tenir contre la grille et d'essayer de travailler un peu les genoux, etc. Parce que c'est pas juste genre je te tiens contre la grille, je te pousse au niveau du tronc. Et j'essaie de te garder là, et puis coûte que coûte, je vais essayer de te mettre au sol. Oui, elle va faire ça, mais elle va aussi varier avec des coups, etc. Parce que Santos aussi va essayer de défendre avec des coudes. Bref, Blanchfield tient sa game, Blanchfield impose sa game, Blanchfield dicte le combat, Blanchfield a passé l'ouragan du premier round. Santos était vraiment bonne dans le pied-point et a donné beaucoup de difficultés à l'américaine, mais l'américaine a fait ce qu'il fallait pour changer la dictature du combat. Ça veut rien dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pareil, c'était bien joué, clairement, de Blanchfield. Et puis, elle avait besoin d'un combat où il y avait de l'adversité en face, où il y avait une opposition, vraiment. Et je pense qu'elle s'en est bien sortie, parce qu'elle a montré de la tenacité, elle a montré qu'elle était tough, elle a montré qu'elle est capable de prendre des coups et qu'elle est capable d'en redonner derrière. Et aussi... montrer des flaws, des défauts dans sa game, bah, ça va lui permettre de travailler vraiment des points précis pour son prochain fight camp, hein. Parce que Blanchfield, c'est clairement la course à la ceinture, on va pas se mentir, hein. Ça fait plusieurs, depuis le dernier combat, on va dire, c'est vraiment une contendante très 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 sérieuse pour la ceinture. Et depuis que Shevchenko a été détrôné, j'ai envie de vous dire, sky's the limit, quoi. Tout est possible dans cette catégorie. Et encore une fois, comme je vous le dis, il y a des gros combats qui s'en viennent derrière. C'est super intéressant. Bravo Erin Blanchfield. Waouh. Elle est impressionnante dans son MMA et dans son attitude, quoi. Ce professionnalisme est implacable. Vraiment, bravo Blanchfield. Et bravo Santos aussi, qui a donné vraiment un fucking beau combat. C'est con, cette faute, vraiment, au milieu du round 2, je suis persuadé que ça aurait pu complètement changer le combat pour elle et que ça aurait pu tourner dans son sens. Bravo aux deux, et puis on n'est pas sûr de revoir Blanchfield tout de suite, parce que comme je vous le dis, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, mais on connaît le UFC, ils aiment bien aller chercher des match-up pour les ceintures quand il y a de l'activité. Il faut essayer de surfer sur la vague de l'activité, de la hype de ces flyweight. Donc écoutez, Qui aura, on va dire, allez, Manon gagne ou Rose gagne? Qui aura le title shot? Est-ce qu'on se retape une demi-finale encore face à la vainqueur? Oui, à la vainqueur de Shevchenko face à Grasso. Qui, voilà, est-ce qu'il faut refaire une demi-finale? Ou alors est-ce qu'on dit genre, on met Manon Fiorro, ou alors on met Rose, ou alors on met Erin Blanchfield, ou alors est-ce que l'UFC veut absolument pousser Blanchfield? Je ne sais pas. Ça commence à faire beaucoup pour Blanchfield si elle doit se retaper un combat derrière. C'est ça qui m'embêterait un peu. En tout cas, les flyweight ont un bel avenir, et un bel avenir très proche, et un bel avenir sur le moyen terme aussi, et j'espère sur le long terme. Bravo Erin Blanchfield pour cette belle performance pleine d'adversité. Combat qui aurait dû être le main event, hein, d'abord, mais écoutez, hein, on va passer au combat suivant, parce qu'il y a eu aussi d'autres combats quand même sur cette carte, notamment le vainqueur de Road to UFC, Rinya Nakamura, le japonais, un lutteur médaillé en lutte, et face à lui, Fernie Garcia. Bah écoutez, c'était la première fois que je voyais un combat au complet de Nakamura, et que dire, quoi. Le mec a roulé sur son adversaire pendant 3 rounds. J'ai un peu l'impression qu'il y a eu une espèce d'abandon de la part de son adversaire mental, on va dire, qui a fait que sur le mat, ça s'est ressenti. Hein. Dans la cage, c'était très très dur pour lui. Côté Nakamura, je vais pas vous refaire le play-by-play, mais une bête de lutte. Une bête de lutte, et puis aussi, ce qui est bien avec les lutteurs, c'est qu'ils savent vraiment bien se déplacer, qu'ils ont un très très bon sens du déplacement. Qui sont rapides, et surtout on est chez les bantams, donc ça va super vite. Encore un bantam, ça s'est très bien passé au niveau encore une fois, hein, il a dicté le combat, hein, Rinya Nakamura, clairement. Il a fait ce qu'il a voulu, sauf finir. Et je vais quand même passer un petit point là-dessus qui est important pour moi, c'est les lutteurs dans le grappling. Le grappling, ça englobe évidemment plusieurs disciplines, lutte, jiu-jitsu, japonais, brésilien, tout ce que vous voulez, judo, etc. Donc, il y a quand même pas mal d'aspects à prendre en compte pour être un grappleur complet. Et les lutteurs ont une espèce de fâcheuse tendance, j'ai envie de dire, à être très bons à piner leur adversaire au sol, mais parfois à galérer à finir son adversaire au sol. Et là, c'est ce que j'ai un peu vu avec Rinya Nakamura. Après, Ferny Garcia, bon, il n'a jamais été fini. Donc, je veux bien croire que le gars est une brute. Et Rinya Nakamura a eu un moment vraiment très, très fort où il était pas loin de prendre le dos de son adversaire. Il était dans son dos. Il était accroupi. Pendant que Ferny Garcia, lui, était assis sur son cul, Rinya Nakamura a mis une grosse pression sur ses épaules et sur sa nuque pour faire en sorte que Ferny Garcia ne puisse pas se relever. Et Rinya Nakamura a sorti une armbar vraiment très flashy, très très vite, arrivé de nulle part. Ferny Garcia a réussi à s'en sortir. Rinya Nakamura n'a pas réussi à garder un angle vraiment parfait au niveau de cette armbar. L'angle droit tout du long aurait été vraiment mieux au final pour le japonais. Ferny Garcia s'en est bien sorti, hein. Bravo à lui pour sortir de cette armbar. Mais bon, il n'a pas réussi à lui mettre le pouce en l'air, etc. pour finir cette armbar. Et il a eu beaucoup d'occasions, quoi, de finir Ferny Garcia. À un moment donné, il avait réussi à étendre son bras quand il était au-dessus en side control pour pouvoir aller chercher une Americana, mais il n'a pas réussi à la faire. Donc voilà, je veux absolument pas cracher sur le gars parce que ce serait ridicule parce qu'il est pétri de talent, clairement. Hein. Et puis comme je vous dis, dans le striking, ses déplacements l'aident beaucoup et puis il a été capable de connecter quelques fois, mais ses timings de takedown sont tellement parfaits que pourquoi tu n'utiliserais pas genre ton point fort pour aller gagner ce combat? Ce qu'il a fait, il s'en sort avec zéro dégâts. Clairement, il peut se rebattre bientôt, tu sais, c'était 3 rounds, même si bon, il a fait un bel effort physique, hein, clairement. Il peut se rebattre dans pas si long que ça, quoi. Et puis chez les bantamweight, il peut faire mal avec sa lutte, clairement, mais il va falloir travailler le jiu-jitsu, quoi. Clairement, il va falloir travailler le sol, tu dois continuer de travailler ta lutte, bien sûr, mais tu dois plus entretenir ta lutte que de la travailler. Et plus travailler, clairement, ton jiu-jitsu. C'est ce que j'aurais à dire sur Nakamura, parce qu'à part ça, genre, la performance était flawless, quoi. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est parfait. Comme je vous dis, pas de dégâts. Amener son adversaire au sol dès qu'il le voulait. Timing de takedown, parfait. Mais, comme je vous dis, peut-être un petit abandon mental de la part de Ferny Garcia, parce que je ne l'ai pas vu se prôler du combat. Et Rinya Nakamura n'a pas forcément eu à amener vraiment ses amener au sol. Parce qu'il a réussi à les passer pas mal toutes. Donc, je voudrais le revoir contre un autre adversaire, assez vite, bien sûr, mais surtout, je voudrais le revoir travailler son sol et qu'il apprenne vraiment à être clinique et assassin dans son jeu au sol. Bravo à lui, on a en tout cas un autre très très bon japonais dans le roster du UFC et chez les bantamweight, c'est cool, c'est très cool, je suis content pour ça. Alors, combat suivant, retour de Giga Chikadze, le géorgien, le kickboxer de 35 ans, après une pause de plus de 1 an et demi, hein, quasiment 19 mois, me semble-t-il, face à lui, Alex Caceres, alors le vétéran, 35 ans aussi, hein, je ne sais pas combien de combats au UFC, je crois qu'il est rentré, plus de 20 victoires en pro, 13 défaites, Giga, lui, 14 victoires quand il rentre ouais, 14 victoires quand il rentrait, 3 défaites. Enfin voilà, le fameux giga kick hein, qui faisait très mal dans l'UFC. Encore une fois, je vous parlais des gars du K1, des gars du kickboxing, pas du Muay Thai, hein, parce que alors on les voit jamais, hein, ou très 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 rarement, en tout cas rentrer dans de grandes organisations de MMA. Mais les kickboxers, c'est différent, hein. Giga en est un, et lui, il n'était pas non plus le plus grand kickboxer ever, quoi. Juste, il était correct, il était bon, et puis il est rentré au UFC, et puis il a fait mal avec son striking, comme je vous disais tout à l'heure pour Junior Tafa, il ne suffit pas d'être le meilleur pour pouvoir rentrer dans l'UFC ou en MMA en général, et puis casser quelques opposants, quoi. Ça se fait bien, et Giga était de retour face à Alex Caceres, j'ai entendu 30-27 à la fin, il me semble, ouais, ça me paraissait peut-être un peu dur, mais combat qui était au final, je trouve, de ma perspective, un petit peu plus serré que ce que j'en ressentais en regardant Twitter, par exemple. Mais clairement, hein, Giga commence doucement. Après, je pense qu'il y avait aussi un peu de stress, un peu de ring rust, hein, un peu d'hésitation, hein, plus forcément autant à l'aise qu'il aurait pu l'être dans ses derniers combats. Ça, je peux le comprendre, hein, parce qu'après un an et demi, tu te retrouves face à combattre face à un vétéran en plus, un gars classé. Ça peut être stressant, ça je le comprends quoi. Donc du coup il commence doucement, Alex Caceres lui casse la tête avec ses mouvements et droite gauche, ce circle autour de lui, avancer, reculer, aller dans la poche, mettre des coups, même Giga s'est fait connecter une ou deux fois. Bon, pas non plus le même power hein, que Alex Caceres, c'est ça qui l'a fait gagner le combat d'ailleurs Giga, c'est que son striking a été plus effectif, plus puissant avec le damage et le effective striking, le fameux effective striking qui vous donne plus de pouvoir aux yeux des arbitres, aux yeux du règlement, et qui vous donne, ben, si ça va à la décision, plus de chances de gagner le combat. Et c'est ça qui fait que Giga a gagné le combat, c'est que sur ses kicks et sur ses combinaisons, d'ailleurs combinaisons qui, moi je trouve ça manquait beaucoup de volume du côté de Giga du au premier, après ça s'est un peu amélioré du deuxième au troisième, mais quand il y avait du striking, ben, chez Giga ça allait plus fort, clairement. Les kicks étaient meilleurs, les punches étaient meilleurs, c'était mieux, mais c'était pas non plus... impressionnant, je trouve. Et Caceres, lui, clairement, en avançant dans le combat, sa garde baissait de plus en plus et il se faisait de plus en plus connecté. Mais il lâchait pas l'affaire, hein. Il avançait toujours vers son adversaire. C'est ça qui fait que le gars est fun dans la cage, j'ai envie de vous dire. C'est que le mec est là. Le mec va au charbon, le mec travaille, le mec va être le fun. C'est clairement l'archétype du fan favorite et du bon employé, quoi, qui va vous donner du fun. Il mérite d'être là, il est encore classé, je pense qu'il ne le sera plus après quelques mois, j'ai envie de dire, ou alors après quelques cartes. Il y a forcément un featherweight qui va lui repasser devant, il a 35 ans. Je suis un peu dur, mais c'est la dure réalité, quoi. Là, on voit que c'est un peu limité pour lui. Oui, le 109 arrive derrière, beaucoup de talent arrive derrière et ça va être compliqué. Mais ouais, Giga, pas Giga fou. Désolé. Mais ouais. Victoire pareille de Giga à la décision, comme je vous dis, 30-27, je trouve ça un peu abusé, mais victoire pareille. On va le revoir, je pense bientôt lui aussi, parce qu'il est classé quand même, il est dans le top 10 toujours, hein, même avec un an et demi de pause, donc il y a de l'activité chez les featherweight. Ah, bientôt, encore une fois, Georgian Power quand même, hein. Comme je vous le dis, plus de striking effectif pour Giga Chikadze. Passons au co-main event. Qui n'aurait pas dû mettre le co-main event? Anthony Smith face à Ryan Spann. La douleur. J'en parlais vite fait en off avec notre ami Lionel du Café Crème Sport, pardon. Et je voyais un peu ce combat comme un purgatoire, en fait. C'est-à-dire que soit on va aller en enfer, soit on va aller au paradis. Le paradis étant genre le combat se termine vite avec un finish, ou l'enfer c'est on en chie pendant 3 rounds. Et ben le premier round était vraiment pas mal, donc ça m'a donné un petit peu d'espoir, mais petit à petit on est parti dans le sloppiness éternel des light heavyweight, j'ai envie de vous dire. Ça ne s'arrête fucking jamais, le top 10 des light heavyweight, ce manque de niveau. Tout simplement, genre, je veux dire, du côté de Ryan Spann, il y a eu des autres occasions de finir son adversaire, manque de fight IQ, manque de tout pour finir Anthony Smith. Anthony Smith, lui, était vraiment pas mal dans le premier, mais ça allait en déclinant très très vite, bien trop vite. Je sais pas, c'est troisième round était odieux, quoi. Les deux étaient avec de la cardio dans le sac, ce que je peux comprendre, mais c'était pas beau, quoi. Genre, je vais pas passer genre 10 minutes à tracher les light heavyweight ou alors à tracher ce combat, parce que mine de rien, j'ai une relation d'amour-haine avec les light heavyweight. Au UFC et dans d'autres orgas aussi, hein, parce que dans d'autres orgas, si vous regardez chez One, c'est pas fou, quoi.
Et puis rajouter là-dessus aussi la décision des juges, hein, split decision pour Anthony Smith. Les gens voyaient plus Ryan Spann, moi aussi je le voyais plus, et puis on voit sur sa tête, il est dégoûté, clairement. Moi aussi, hein, parce que. En même temps, je suis dégoûté. Oui, parce que le niveau affiché n'était pas fou. Et puis, les light heavyweight top 10, ça va pas très bien. Mais aussi, ce qui est bien, c'est qu'on va pas se taper la trilogie. Parce que, imaginez, on se tapait la trilogie entre Smith et Ryan Spann. Hein. Est-ce que ça vous tentait pas, ça? Un petit main event du samedi soir, là, genre à 5h du matin pour vous, les Français, entre, entre Ryan Spann et Anthony Smith, quoi, ou alors même pour partout dans le monde, quoi. Personne veut se taper cet event-là. Anyways, je divague, je m'arrête et le ranting est terminé. Passons au main event, passons à l'émotion, alors le combat. Oui, je vais passer à travers, mais évidemment, il y a bien plus que ça. C'est bien plus qu'un combat, c'est une sortie. Korean Zombie s'est fait knockout plusieurs fois sur ses derniers combats. Ses derniers combats ne sont pas passés bien. Hein. Il s'est fait knockout à la dernière seconde dans le cinquième round contre Yair. Il s'est fait knockout contre Volk en title shot. Et puis là, il s'est fait knockout contre Max Holloway. Max Holloway qui aurait pu le knockout d'ailleurs une seule fois. Il l'a knockout deux fois. Enfin, il l'a knockout. Il l'a knockdown deux fois. Hein. Il y a eu un premier walkout, tentative de walkout KO de Max Holloway qui n'a pas fonctionné. Il me semble que c'était dans le premier round ou dans le deuxième, je ne sais plus. En tout cas, Max Holloway a dominé le combat à la Max Holloway. Clairement, on n'a rien appris sur Max, sauf qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'on oublie un peu le talent de Max et qu'il nous le remet dans la face et on se dit, bordel, qu'est-ce qu'il est bon, quoi. Et qu'est-ce qu'il est bon, pas seulement avec ses mains, hein. Clairement, sa boxe est vraiment bien, quoi. Genre, ses déplacements sont très bons, sa rapidité, sa fluidité, son timing, sa précision, tout est très, très agréable à regarder. Je dis pas qu'il battrait n'importe quel boxeur, hein. Loin de là, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste qu'il est fucking beau à voir et qu'il est très doué. En boxe, pour un gars de MMA, il est très très doué. Il est dans les meilleurs chez les Feather, sûrement. Peut-être même dans le roster. En tout cas, belle perf de Max Holloway, mais aussi une belle perf de Korean Zombie. Parce que, premier round, on a eu droit à vraiment une belle bataille, clairement entre les deux. Où il y a eu des échanges, Max s'est fait connecter plusieurs fois, mais Max, ce mec, a le menton vraiment d'une grosse roche, quoi. C'est une statue, ce mec, hein, son menton. C'est incroyable qu'est-ce qu'il peut prendre. On l'a vu contre Dustin Poirier, il s'était fait beat up, mais il est resté bien sur ses pieds. Ça nous a pas fait plaisir de voir Max dans cet état-là, mais écoutez, c'est la vie des fighters et des fois, ça arrive. C'est likely que ça arrivera à tous les fighters et même les meilleurs. Max Holloway, lui, il continue. Il continue sa vie de très très bon, entre très très bon et meilleur, parce qu'évidemment dans sa catégorie, il y a évidemment le boogeyman de tout le monde, mais de Max Holloway surtout, à savoir Volkanovski. Mais ouais, quel combat de TKZ aussi, hein, je commence déjà à divaguer, parce que on connaît la finalité, TKZ s'est fait knockout. Ça a été très bête de la part de TKZ de rusher dans ce troisième. Je parle un peu dans tous les sens parce que j'ai plus envie d'y aller sur l'émotionnel, sur ce combat-là, que sur vraiment la pure analyse. Mis à part une très très belle défense d'Anaconda Choke de la part de Korean Zombie, justement. Quand Holloway a knockdown Zombie et qu'il était là pour faire un wildcat, commence à lever les bras, l'arbitre était là genre 1-1, ça continue, man. Max Holloway, pendant que Korean Zombie se relève doucement et se met en tortue, Max Holloway lui saute dessus pour passer en Anaconda Choke. Il était vraiment pas loin, mais il n'a pas réussi à rattraper les jambes de Korean Zombie. Il n'a pas réussi à justement rapprocher ses hanches aux siennes pour pouvoir exercer cette pression au niveau de la gorge de Zombie. Et du coup, Zombie a été sauvé. Mais derrière, évidemment, on connaît la suite. Zombie a rushé sur Max dans le début du troisième et s'est fait connecter en pleine poire. Après, vous allez me dire, oui, mais Zombie, on sait que ça part un peu dans tous les sens. Des fois, on sait que le gars peut se faire knockout et c'est juste genre comment il va se faire finir, etc. Ou alors, oui, c'est arrivé, mais faut pas oublier que c'était potentiellement son dernier combat et puis que de partir sur... justement sans se faire knockout, ça aurait pu être nice tout simplement, et puis partir sur une guerre de 5 rounds avec peut-être même une défaite, ça aurait été un peu mieux, mais ça change rien parce que l'atmosphère dans l'arena et comment le UFC a géré cette sortie et cette retraite, ce retirage de gants de Korean Zombie, ça a été bien. Ça a été bien pour lui parce qu'on lui a montré beaucoup d'amour, que ce soit à l'entrée et que ce soit à la sortie, hein, parce que Ils ont mis son walkout song quand le combat était terminé, quand Zombie sortait de la cage, donc ça c'est cool déjà. Les commentateurs se sont tus pendant que Zombie sortait de la cage, donc vraiment genre juste les images de lui qui hug ses amis, ses proches, sa famille, son corner, etc. Des plans aussi sur ses fans qui chantent Zombie et qui lui payent un bel hommage. Voilà, c'était bien quand même, c'était beau et c'était bien fait. C'était bien fait, et puis beaucoup de respect de la part de tout le monde pour Korean Zombie que je l'ai vu sur les réseaux, mais surtout je le ressentais en regardant le combat et en regardant justement la fin de ce combat. Et ça c'est cool quand même de voir ça pour Zombie, une belle carrière. Malheureusement un peu foufou quoi dans son MMA, et puis ouais. C'est chaud. Ce qui est bête, c'est que, et ça, là, je vais, ça vient pas de moi, je vais citer Lucas d'Obord du Ring, qui disait que c'est con que, il ait gâché ses meilleures années de son prime avec un service militaire. En Corée, je vous rappelle que c'est obligatoire. Et je vais faire un parallèle avec ça, par exemple, Son, le joueur de Tottenham, oui, je parle de football, je change un peu, je passe du coq à l'âne, bah lui, il n'a pas eu à faire son service militaire parce qu'il a gagné, genre quelque chose comme la Coupe d'Asie des Nations ou whatever en foot. Donc, quand tu gagnes quelque chose pour ta nation, que ce soit je crois que c'est les Jeux Olympiques ou d'autres choses comme ça, bah tu peux être exempté de service militaire. Malheureusement, Korean Zombie, lui... Et ça rentrait pas dans les cases quoi, son cas. Donc il a dû faire son service et perdre des années vraiment de carrière. Moi je suis sûr qu'il y a plein de lèche-culs, ou alors peut-être qu'ils ont peur tout simplement à dire oui mais c'est bien, j'ai fait ça pour la nation et voilà, whatever. Nous on s'en calisse, man, on voulait le voir au mieux. Et puis peut-être on ne l'aura pas vu, mais on aura vu un grand bonhomme, un grand featherweight. Et merci à lui, bravo Korean Zombie. Et si on voyait Max contre Ilia Topuria, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je crois que Volk veut se battre contre Topuria aussi. En tout cas, Holloway, je me répète, et je vais me répéter une dernière fois, mais c'est une situation vraiment merdique pour lui parce qu'il roule sur tout le monde, sauf Volk. Bon, après, il s'est fait péter contre Poirier, mais... Ça s'est pas bien passé la semaine de la coupe de poids, il me semble, pour lui, même s'il était à 155. Et Poirier était vraiment plus gros que lui, plus gros que lui. Pardon, c'était dur, bordel. Ouais, c'était tendu pour Max ce côté-là. Mais sinon, tout le reste, il a roulé sur tout le monde. Puis il y a un combat où il était vraiment compétitif avec Volk, et peut-être même qu'il aurait pu gagner avec une autre décision des juges. Mais bon, après, les autres, il les a clairement perdus, donc j'ai rien à dire là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que Max est le meilleur des deuxièmes. Voilà, l'espèce de poulie d'or des featherweights qui roule sur tout le monde. Et bon, on le savait un peu à l'avance avec Korean Zombie, mais c'est juste... Comme je vous dis, quand on voit cette démonstration de talent qui nous est balancée à la face comme ça à chaque combat de Max, ça, au moins, genre, ça me rassure en tant que fan et en tant qu'humain quand même d'avoir un ressenti, de me dire « bordel, il est bon quoi ». Tu sais, il n'y a pas beaucoup de fighters qui sont comme ça, et pour ça, fuck, merci Max et merci Korean Zombie, et merci à vous d'avoir écouté ce 101e épisode du Guillotine Podcast. Je vous dis à très bientôt, on se reparle très vite. Merci Korean Zombie, merci à vous, merci aux fans, merci aux auditeurs, et allez me suivre sur Instagram @guillotine_podcast, Twitter @guillotine514, TikTok, et ouais, je suis sur TikTok, et allez voir sur TikTok, vous allez voir, et vous allez voir des surprises. Non, je déconne, il n'y a rien de fou, mais je poste quelques trucs de temps en temps. Et ouais, allez me relaisser une note sur Apple ou sur Spotify. Il y en a qui le font, et vraiment, merci à eux. Merci à tout le monde. Bye les amis. At the end of the day, it is what it is.